Vous écoutez Canal M et c'est l'émission Le National. Je suis Clotilde Seille. Il me fait plaisir de vous présenter ces segments extraits d'émissions de la semaine. On va commencer avec Louis Bérère, neuropsychologue et chercheur, qui démystifie pour nous les bienfaits de l'activité physique et de la stimulation cognitive sur la santé du cerveau. C'était à l'émission C'est bon pour la santé, animée par Marianne Paquette.
Louis Bérère, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous dépanner. Vous avez mis du monde à l'extérieur de votre bureau pour nous. on est un petit peu à l'avance. On avait du mal à joindre Nathalie Chartrand. Donc, on débute cette deuxième partie avec vous, Louis Bérère. Vous êtes neuropsychologue, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et là, pour nous parler d'un sujet que vous allez couvrir demain dans le cadre d'une conférence, vieillir avec un cerveau en santé, les bienfaits de l'activité physique et de la stimulation cognitive. Et j'ai l'impression, Louis, et vous qui travaillez avec des personnes plus âgée, vous saurez me le dire, c'est comme un cercle. La personne vieillit, donc pense qu'elle est moins mobile, plus fragilisée, donc elle bouge moins. Et en fait, ça crée un cercle qui est plus ou moins bon pour la santé de cette personne.
Oui, c'est évident que les appréhensions qu'on a en vieillissant sont fortes. Les gens pensent que, bon, parce que j'ai tel âge, je peux plus faire telle activité physique ou telle activité stimulante, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'âge, tout ça. Hein. C'est une question de capacité physique, c'est une question de capacité cognitive, de capacité d'énergie générale. Mais on voit des exemples là, vraiment là, quasi hallucinants là, quand on voit des athlètes faire des marathons à 100 ans. Ça existe, là. Il y en a dans la presse publique, vous allez en trouver. Au même titre qu'il y a des jeunes de 30 ans qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des maladies. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est pas l'âge qui devrait être le facteur qui nous préoccupe. Souvent, en recherche, nous, on attribue ça au vieillissement secondaire. Les aspects, les maladies, les risques qui s'associent au vieillissement, oui, ont un impact. Mais l'âge, le vieillissement primaire, le vieillissement chronologique, ne devrait pas être le facteur qui nous limite.
Et, bon, l'activité physique, ça a bien sûr plusieurs bienfaits. Ce qui est important de souligner, on va en parler aujourd'hui, c'est l'impact sur notre santé cognitive et la façon dont ça préserve notre cerveau surtout, de différentes maladies. Quel est l'impact? Comment ça fonctionne, là, tous ces effets-là?
Ça, on n'est pas capable d'expliquer en détail encore qu'est-ce qui se passe, ce que je peux vous dire, c'est que depuis une ou deux décennies, là, c'est très, très fort dans la littérature scientifique. On a découvert, en fait, que l'activité physique pratiquée de façon régulière, plusieurs fois par semaine, va avoir tendance à s'associer à une diminution du risque de troubles cognitifs, que ce soit pathologique ou non. Hein. Quand on parle de troubles cognitifs, on parle de perte de vitesse, de vitesse mentale, de troubles d'attention, de difficultés à faire plusieurs choses en même temps, et éventuellement même de troubles de mémoire. Donc, il y a une catégorie de ces troubles-là qui va être normale en vieillissant, puis jusqu'à un certain point, ça ne perturbe pas notre quotidien, on s'adapte assez bien, ça ne dérange pas notre environnement, et ça peut devenir plus problématique éventuellement quand ça nous empêche de faire nos activités de la vie quotidienne, ça nuit à nos relations, à notre travail, etc. Là, on va parler d'un vieillissement cognitif pathologique, hein, puisqu'il s'en va vers la démence. Et ce que les recherches ont montré, c'est que l'activité physique pratiquée de façon régulière va réduire les risques de ces deux phénomènes-là, c'est-à-dire que le vieillissement même normal va être ralenti, va être repoussé, et le vieillissement pathologique, la démence, va être beaucoup moins important, c'est-à-dire que les diminutions de risques vont jusqu'à 30 à 35 % dans certaines études liées à l'activité physique. Donc, c'est énorme. C'est probablement la plus belle nouvelle que vous pouvez communiquer dans les 10 dernières années en ce qui a trait à la recherche sur la démence. Il n'y a aucun essai clinique qui peut prétendre à côté ça. Et en plus, donc on a suivi des personnes qui faisaient de l'activité physique, on montre qu'il y a une réduction de démence, mais en plus, on a montré que les personnes âgées qui étaient sédentaires, mais qui se mettent à pratiquer de l'activité physique, vont montrer des améliorations cognitives. Donc, même en 3 mois seulement, on voit des améliorations fulgurantes sur le plan de la vitesse de traitement de l'information, l'attention, de la capacité de contrôler ses ressources mentales. Et ça, c'est vrai, même chez les gens qui avaient montré des déficits. Pas juste chez les gens normaux qui sont sédentaires, mais aussi chez les gens qui commençaient à trouver que, oups, j'en perds des petits bouts, là. Donc, 3 mois seulement, 3 fois par semaine, on suit les guidelines, on suit les recommandations, je pour parler français, on suit les recommandations liées à l'activité physique que vous allez trouver dans Kino Québec, dans tous les organismes d'activité physique, que ce soit le Collège américain de sciences de médecine du sport, etc. Tous ces organismes-là, Santé Canada, l'Association mondiale de la santé, tous ces organismes-là ont des recommandations liées à l'activité physique. Et si on les suit de façon régulière, maintenue, on diminue nos risques de troubles cognitifs.
Donc, une façon de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est important de le ressouligner. Bon, 3 fois par semaine, on comprend bien activité physique. Quel type d'activité physique est-ce que tout peut convenir?
C'est une autre question intéressante, c'est le style d'activité physique, le type qu'on doit faire, parce qu'on a longtemps pensé qu'il fallait absolument que l'exercice soit uniquement de style cardiovasculaire, améliorer la santé cardio-respiratoire, comme par exemple marcher avec un pas soutenu, courir, faire du vélo, etc. Alors, on se rend compte que les meilleurs effets, les plus grands effets sont observés quand les programmes sont combinés, donc à, par exemple, l'entraînement de type aérobie, cardio-respiratoire, à un entraînement en force musculaire, par exemple. Ou encore à un entraînement de contrôle moteur, donc d'agilité, du sport qui va demander du contrôle au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Jouer à des sports de raquettes, par exemple, pour pouvoir avoir un effet bénéfique. De la même façon, il y a des études récentes qui montrent aussi que le yoga pourrait avoir un impact direct sur la fonction cognitive chez les personnes âgées. Donc, ce sont des sports complexes. Je peux pas, moi, j'ai pas l'expertise pour vous dire qu'est-ce que ça fait exactement sur le corps. Le yoga, c'est très complexe. Il y a différentes approches. C'est certain que ça peut améliorer probablement la force chez certaines personnes ou la flexibilité chez d'autres personnes, la relaxation également. Donc, l'ensemble de ces phénomènes-là va avoir un impact, c'est certain, sur la fonction cognitive. Et les mécanismes sous-jacents, on les connaît pas encore bien.
Ouais, il y a la danse aussi également qui est de mémoriser des exercices de coordination. Les bras bougent d'une autre façon que les jambes. Ça peut être un très bon exercice également.
La danse, de plus en plus, est utilisée dans la science pour montrer les effets de l'activité physique de façon régulière, de façon générale sur le cerveau. Encore là, quel type de danse, je ne pourrais pas vous dire, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça a un effet, une valeur ajoutée à l'exercice. Fort probablement parce que, oui, vous l'avez dit, il y a un aspect cognitif qui est sollicité, puis un aspect de contrôle moteur également. C'est difficile de faire de la danse. Ceux qui ont essayé savent que c'est pas toujours facile.
Ouais.
Il y a un aspect social aussi qui est intéressant. Mm-hmm. Ça, faut pas l'oublier. Hein, dans les méthodes qu'on utilise souvent pour prévenir les troubles cognitifs, on va dire aux gens, l'exercice physique, c'est important, la stimulation cognitive, c'est important, mais les interactions sociales aussi. Donc, il y a un troisième facteur très important qui vient avec la danse dans bien des cas. Il y a de la musique. Hein? L'effet de la musique sur le cerveau, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu et étudié depuis longtemps. On a des grands experts à Montréal dans ce domaine-là. Donc, l'effet de la musique a souvent été associé à des caractéristiques uniques sur le cerveau. Hein? Il y a un effet unique par rapport à d'autres types de stimulation et tout ça est intégré dans la danse. Donc, c'est quelque chose d'assez prometteur. C'est assez nouveau en neurosciences. Donc, encore là, je ne peux pas vous dire exactement quels sont les mécanismes d'action derrière tout ça, mais on sait qu'il y a un effet positif en tout cas.
Donc, des facteurs qui sont importants dans la stimulation, la préservation de la santé du cerveau, activité physique, on en a parlé, interaction sociale, la nutrition également, on le sait. Je veux revenir, et vous l'avez abordé, Louis Béard, sur la stimulation cognitive. C'est quoi ça au fond?
Bon, quand on parle de stimulation cognitive, on parle de toutes les formes de stimulation de votre cerveau, si on veut, directement. Par exemple, on va penser aux jeux stimulant la mémoire, l'attention divisée, la vitesse d'exécution de certaines tâches. Il y a énormément de ce type de jeux-là qui sont commercialisés dans le monde. Les brain games, qu'on appelle en anglais. À ce jour, il n'y a pas de ces jeux-là là, qui ont un effet particulier ou unique. Il n'y a pas de prescription exacte, mais ce qu'on sait, c'est que les gens qui participent à des activités stimulantes sur une base régulière vont aussi montrer des diminutions de risque de troubles cognitifs avec le temps. Et on sait aussi que l'utilisation de jeux stimulants va aussi aider à remettre en place des fonctions cognitives qui ont été perturbées par toutes sortes d'événements. Vous pouvez penser à quelqu'un qui a eu, par exemple, une maladie cardiaque ou un événement, une chirurgie, ou qui a, par exemple, vous, si vous passez quelques nuits blanches, vous avez trouvé que votre cerveau est un peu plus lent, bon, mais les jeux de stimulation cognitive ont beaucoup été utilisés dans cette perspective-là pour réactiver, si on veut, certaines fonctions cognitives.
On les trouve où, ces jeux-là? Ils sont accessibles de quelle façon?
Bien, il y a un peu... Moi, je recommande pas nécessairement un jeu en particulier. Je pense que toutes les activités qui nous intéressent et qu'on va avoir tendance à pratiquer de façon soutenue sont efficaces. On n'a pas besoin de jeux vidéo. Hein. Ça peut être des jeux de par exemple, jouer aux échecs, jouer aux cartes entre amis. Ouais. Ça demande de la mémorisation, ça demande du contrôle cognitif, ça demande de lire des interactions sociales aussi. C'est de la stimulation cognitive. La lecture, on oublie souvent que la lecture en est un extrêmement important. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que la complexité du type de lecture des gens vont avoir aussi une certaine valeur prédictive du maintien des fonctions cognitives. Mm-hmm. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Oui, c'est très à la mode d'avoir des jeux stimulants sur son iPad ou sur son téléphone. Vous allez en trouver disponibles en vente libre. Vous allez en trouver de toutes les sortes. Moi, je pense pas qu'à ce jour-là, je peux me tromper, là, mais je pense pas qu'à ce jour, il y a un jeu qui a montré une supériorité par rapport aux autres. Oui. L'important, c'est activités diverses. Trouver des stratégies. Par exemple, si on sent que certains matériels sont plus difficiles à retenir que d'autres, les fameux NIP ou les numéros pour les cartes de crédit, etc., ben, on peut trouver des stratégies pour améliorer ça. Et les jeux vont souvent utiliser cette approche-là. Ils vont nous montrer à développer des stratégies pour améliorer notre mémoire, pour prendre plus le temps de se concentrer, pour se donner du temps quand vient le temps d'apprendre du nouveau matériel. Et c'est là-dessus que les jeux vont être efficaces parce qu'ils utilisent ces techniques-là.
Louis Bérard, on en saura davantage lors de cette conférence offerte demain 24 novembre à 14h du côté du Centre Avantage de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, une conférence d'une heure, je pense, c'est ça, hein, une heure.
Oui,
donc, quand même plus long que ce 10 minutes, ça risque d'être justement très stimulant, cette discussion. Est-ce qu'il reste de la place, Louis Bérard?
Je ne suis pas au courant, c'est une bonne question. J'ai pas eu le temps de vérifier, j'imagine. Il y a toujours un peu de place. Hein, puis,
c'est vaste comme endroit.
C'est un amphithéâtre qui est assez vaste. Je pense qu'il devrait rester de la place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on termine toujours cette conférence-là en essayant de faire un survol de ces différentes approches-là dans une perspective de gestion de nos ressources mentales, un peu comme on gère notre portefeuille en vieillissant. Il faut gérer sa réserve cérébrale. Donc, j'utilise un peu cette analogie-là en disant ben, faut diversifier ses placements cérébraux pour les maximiser avec le temps par l'exercice, par la stimulation, par la nutrition. C'est une réserve précieuse qu'on a, le cerveau, en vieillissant, puis on a tendance à prendre pour acquis qu'il décline, mais c'est pas toujours vrai. Il peut être aussi amélioré puis maintenu très longtemps.
Et ce, on l'a bien compris au cours de cette discussion, à tout âge, il n'est jamais trop tard pour bien faire. IUGM.QC.ca, Louis Bérard, vous êtes neuropsychologue, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et plein d'autres choses. C'est toujours un plaisir de vous parler. On a l'impression d'être à la fine pointe de la recherche quand on discute avec vous.
Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
Au revoir.
Au plaisir.
Vous trouverez une foule d'informations utiles sur la santé des aînés sur le site Centre Avant Âge. Avec Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, nous découvrons le programme « Du sport pour moi » qui vise à initier des jeunes semi- et non-voyants à différents sports. C'est également extrait de « C'est bon pour la santé ».
Nathalie Chartrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec et on voulait se permettre, se donner la chance de faire connaître le programme du sport pour moi ensemble, Nathalie, qui vise les personnes qui ont une déficience visuelle. C'est quoi ce programme-là d'entrée de jeu?
En fait, le programme est destiné aux jeunes vivant avec une déficience visuelle partielle ou totale, âgés entre 6 et 14 ans. Le but, c'est de les initier à plusieurs sports et surtout d'acquérir les habiletés de base, genre courir, sauter, lancer, glisser, ramper. C'est de leur montrer la vraie technique et avec les vrais mots.
Ouais.
Et le but, c'est de faire ça dans un environnement sécuritaire, dans des conditions gagnantes. Fait que si le jeune, un coup qu'il a appris les rudiments de la natation, il peut ensuite aller à la piscine de son quartier. Et là, l'entraîneur du club va pas être un petit peu sur la panique parce qu'il y a un jeune aveugle qui veut apprendre à nager, là.
Oui, mais encore faut-il que le responsable de cette piscine-là ait déjà été en contact avec cette clientèle.
Oui, mais si le jeune est capable de démontrer qu'il s'est déjà frotté, qu'il s'est déjà nagé, c'est moins épeurant qu'un jeune qui arrive, qui sait pas, qui a peur dans l'eau, qui veut pas mettre sa tête dans l'eau, qui est pas capable de faire des bulles.
Tout à fait. Oui. Fait que
le but, c'est de leur donner vraiment une petite base dans tout, et quand les entraîneurs ou les responsables de club voient ces gens-là arriver puis dire « Ah ben, gars, c'est bon. » Parce que quelqu'un qui voit pas, on est capable de tout faire si on nous le montre, mais c'est du un pour un. Mais les responsables de club, souvent, ils en ont pas un à fois, là. Il y en a 10, 12, 15, là. Fait qu'ils peuvent pas vraiment donner toute l'attention aux jeunes qui voient pas du tout pour qu'ils apprennent. Puis, ou s'il l'accepte dans son club puis qu'il lui donne pas le temps nécessaire pour l'apprentissage, ben le jeune se démotive puis arrête puis finalement c'est plate pour lui du sport là.
Ouais. Ouais, et vous votre objectif vous-même Nathalie Chartrand, vous êtes une athlète goalball notamment, vous avez remporté des médailles paralympiques à Sydney, Barcelone. Pour vous le sport, c'est important, ça a été un déclencheur de plein d'affaires dans votre vie. C'est une façon aussi de redonner et de pouvoir démontrer à ses enfants mais à leurs parents surtout qu'il y aura des avantages pour eux dans leur développement.
Oui, effectivement, parce que, oui, moi, j'ai passé par le sport pour me trouver un travail, un deuxième travail, un troisième travail. Tout a tourné toujours autour de l'aspect sportif, mais en même temps, c'est quand tu es à l'école, on est inclus partout, hein. On va à l'école régulière, après ça, il faut trouver un travail, on habite dans des maisons, des appartements normaux, entre guillemets. Mais le jeune qui va à l'école puis qui a la calence neige puis qui est obligé de rester en arrière, il fait pas partie de la gang, là. C'est quand qu'on se fait des amis à l'école?
Souvent sur un terrain de ballon chasseur.
Oui, ou à la récréation, dans le cours d'éducation physique, dans le cours d'art plastique, parce que c'est là qu'on peut jaser.
Oui.
Pas dans le cours de français ou de mathématiques. Là.
Oui.
Mais si le jeune, il va pas à son cours d'éducation physique, et ce qui arrive malheureusement encore assez régulièrement, parce que le jeune, plutôt le professeur, il sait pas trop quoi faire avec, ou les parents qui veulent que le jeune ait des bonnes notes académiques en français et en mathématiques, s'il est en retard dans une ou l'autre de ces matières-là, mais pendant le cours d'éducation physique, le jeune, il reste en arrière, puis il reprend le temps perdu en français ou en mathématiques. Mais ses habiletés sociales, il les développe où? Quand tu es toujours un à un avec un adulte. Fait qu'à ce moment-là, si le jeune, au moins, il a appris à faire du ski de fond, puis que là, il part toute l'école en classe neige, bien, il peut partir, puis y aller en ski de fond avec... puis au contraire, là, tu sais, c'est comme tous les jeunes vont dire, ils vont l'encourager, ils vont l'aider, puis... Et c'est de cette manière-là qu'il va se faire des amis aussi en faisant la même chose qu'eux. Oui. Là.
Nathalie Chartrand, est-ce que le programme du sport pour moi, c'est une façon aussi de sensibiliser certains parents à regarder votre enfant, il est capable de plonger, de sauter, de lancer un ballon sans qu'il se blesse, par exemple?
Oui. Les parents, souvent, ont tendance à surprotéger ou, je devrais dire, ils savent pas tout ce que leurs jeunes peuvent faire, même s'ils ne voient pas. J'ai eu des parents là qui m'ont remercié puis qui me disaient jamais je pensais que ma fille pouvait faire tous ces sports-là.
Ouais.
Tu sais, puis ça a l'air de rien, là, mais le jeune ou la jeune, ça lui donne confiance en soi, là, aussi. Puis, il commence à dire, ben ça, je veux, ça, je veux pas, ça, j'aime pas. Au lieu que ce soit toujours le parent qui décide.
Quelle pratique sportive sera adoptée, par exemple, ou quelle activité sera faite par la famille ou par l'enfant. C'est une façon aussi pour l'enfant d'apprendre à se connaître dans sa pratique sportive.
Oui, puis d'apprendre son corps, d'apprendre ses limites, de voir que, oui, au début, c'est dur de faire tel geste ou tel mouvement, mais que plus on le répète, puis à un moment donné, ça devient un peu naturel, là. Mm-hmm. Comme marcher, en fait, là. On a commencé par ramper, marcher à quatre pattes, se lever, tomber, s'érafler les genoux, s'érafler les mains. Et c'est parce qu'on a fait ça qu'on apprend finalement à marcher sur deux jambes et à marcher puis à courir après. Oui. Mais il a fallu passer toutes par ces étapes-là au préalable.
Mais même ça, parfois, on s'en fâche encore, même une fois adulte.
Oui, surtout avec la glace qui s'en vient. Hein. Oui. Mais voyez-vous, comme moi, personnellement, je ne vois pas. Puis tout le monde, l'hiver, me dit « Oh, pauvre toi, ça doit être dur. » Mais je ne sais pas pourquoi, ça fait 29 ans que je ne vois plus, là, je suis tombée une fois à cause de la glace. Mm-hmm. Et j'ai des gens autour de moi qui voient et qui tombent une fois par hiver sur la glace, ouais. Parce qu'ils se fient à leurs yeux au lieu de sentir qu'est-ce qu'ils ont sous leurs pieds. Et moi, j'y crois encore plus. C'est encore plus vrai. Plus tu es musclé, plus tu contrôles ton corps, moins tu as de chances de tomber.
Ouais, plus l'équilibre est là.
Oui,
est présent. Ouais.
Oui, parce que tes muscles peuvent se rattraper ou se contracter ou... ça fait en sorte que c'est moins... Il y a moins de chances que tu tombes. C'est la même chose. Au lieu de faire un grand détour dans une école ou dans un édifice pour aller prendre l'ascenseur, ben quand tu as des bonnes jambes puis que tu es bien musclé, on s'entend, là. Je veux pas que ça devienne des Arnold Schwarzenegger, là. Tu sais, je veux pas que ça... Tu sais, le but, c'est pas de devenir culturiste, là, mais tu sais, juste d'avoir assez... de muscles, ben, tu les montes, les marches, tu fais travailler tes jambes, tu fais travailler ton cardio en même temps, puis au lieu de faire un grand détour inutile pour prendre l'ascenseur, c'est pas parce qu'on voit pas qu'on n'est pas capable de marcher, monter, descendre les escaliers, là.
C'est une façon aussi de sensibiliser ces jeunes-là et leurs familles aux saines habitudes de vie. Il y a deux volets au programme du sport pour moi, initiation et perfectionnement. Donc, je comprends par là, Nathalie Chartrand, qu'il y a des jeunes qui arrivent chez vous et qui ont déjà été sensibilisés au sport et qui pratiquent une activité sportive de façon continue.
Mais en fait, les deux volets, c'est que dès que le jeune vient avec nous, il passe par le programme initiation la première année. Mm-hmm. Fait qu'il touche aux 6, 8, 9 sports ou 12, là, s'il fait les 3 sessions différents pour leur montrer un peu parce qu'on fait de l'athlétisme, du goalball, de la natation, du ski de fond, du patin, de la raquette, du judo, du mayak, de l'escalade.
Il y en a pour tous les goûts,
oui,
là,
oui,
vraiment.
Oui. Il y a des sports intérieurs, des sports extérieurs, des sports d'équipe, des sports individuels. Fait que la première année, c'est pour leur montrer un peu comme c'est 3 semaines à chaque fois, sauf pour la raquette, c'est seulement une fois, mais pour leur montrer un petit minimum et leur montrer tous les sports.
Pour semer l'intérêt,
oui,
voilà.
Pour semer l'intérêt. Et la deuxième année, là, c'est le programme de développement. Là, ils vont choisir un sport, et là, c'est les 10 semaines, puis là, on y va un peu plus.
Dans quel sport ils veulent se concentrer.
Ouais.
Sportaveugle.qc.ca, Nathalie Chartrand, vous êtes directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Merci beaucoup de nous avoir fait connaître ce programme du sport pour moi qui s'adresse à des jeunes de 6 à 14 ans, oui, qui vivent avec une déficience visuelle. Merci.
Merci à vous.
Au Par Actualité, il a été question d'un verre de plastique qui a fait le tour du monde. Pourquoi la photo d'un verre en plastique pour enfants fait-il le tour des réseaux sociaux depuis le début de la semaine? Lundi, Mark Carter a lancé un appel à l'aide sur Twitter. Son fils de 14 ans, Ben, autiste, ne peut boire que dans un verre en plastique de la marque Tommy Tippie. Depuis qu'il a 2 ans, il boit là-dedans. Mais à force, l'objet commence à tomber en lambeaux. Et malheureusement, la marque ne commercialise plus ce type de verre. C'est pourquoi il demande sur le réseau social si d'autres parents auraient gardé le précieux objet. Un appel à l'aide particulièrement relayé sur Twitter et sur Facebook. Car c'est une question de vie ou de mort pour mon garçon. Nous avons testé les remplaçants, beaux et nouveaux, mais Ben nous les jetait au visage. Peut-être en avez-vous un dans le fond d'un placard, interroge ce père inquiet. Car Ben ne peut absolument pas boire dans un autre contenant que ce verre précis. Ben n'a pas bu à l'école jusqu'à l'âge de 5 ans, précise l'internaute. Et il est tellement dépendant de ce petit objet en plastique qu'il a dû être hospitalisé pour déshydratation, imaginez. Et le père de finir son post en appelant à le partager. Ce message a ému, non pas seulement le Royaume-Uni, mais la toile complète de l'Allemagne à l'Australie. Il y a des internautes qui ont répondu à l'appel, qui ont provoqué un grand élan de générosité. Sur Twitter, plusieurs internautes envoient des photos d'un verre pour vérifier auprès de Mark Carter si c'est le bon modèle. Une internaute fait même ses premiers pas sur Twitter en proposant son aide. Selon le journal Le Monde, le sujet a suscité un vif intérêt, plus de 17 000 retweets. Et le père a reçu des dizaines de verres par voie postale. De quoi rappeler que les réseaux sociaux ne favorisent pas seulement des mouvements de haine ou des polémiques ou des combats pour sauver des emojis, mais également des mouvements de solidarité et des échanges de conseils et coups de main entre parents. Par actualité nationale, ceci n'est pas une bonne nouvelle. Le nombre de personnes atteintes de démence au Canada aura presque doublé d'ici 15 ans. C'est la conclusion à laquelle parvient un comité sénatorial qui s'est penché sur la question à Ottawa. En 2011, on estimait qu'il y avait environ 750 000 personnes atteintes de démence au pays. Dans 60 à 70 % des cas, il est question d'Alzheimer. Avec le vieillissement de la population, on estime que 1,4 million de Canadiens seront touchés d'ici 2032. Ces cas auront des répercussions sur les coûts dans le système de santé. Ils passeront de 33 milliards en 2015 à 293 milliards d'ici 2040, selon les estimations. Plusieurs intervenants, pour le comité sénatorial des affaires sociales du Sénat, il s'agit d'un constat d'échec. Selon lui, le Canada a failli à ses responsabilités parce que le pays, contrairement à d'autres États dans le monde, n'a pas de stratégie nationale afin de s'aider des malades et des aidants naturels. Plusieurs intervenants du milieu croient que cette maladie invisible retient moins l'attention des décideurs et expliquerait ainsi le désengagement de l'État à ce propos. La maladie d'Alzheimer n'est pas tangible, on ne la voit pas, ce n'est pas comme avoir une jambe cassée. La personne ne présente pas de symptômes physiques, a expliqué à TVA Nouvelle Monique Thibault de la Société d'Alzheimer du Canada. Bonjour et bienvenue à la seconde partie de l'émission Le National, présentée pour vous sur Canal M par Clotilde Seille. Voici un sujet que je connais bien et voici surtout une entrevue que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le 24 novembre dernier, alors que j'accueillais Florence K à l'émission Des livres plein les oreilles. Florence K qui nous a offert un premier livre qui s'appelle Buena Vida, sûrement un livre qu'elle aurait d'ailleurs préféré ne jamais écrire, puisqu'elle y relate le creux dépressionnaire qu'elle a connu, profond, très profond, immensément profond, et dont elle s'est miraculeusement d'ailleurs sortie. Écoutez bien ça. Hija de la palma, del mar de su Caribe, el verde de sus olas, que corre por mi alma. Florence K, bonjour.
Bonjour.
La hija de Cuba.
Ben oui, la hija de Cuba, la fille de Cuba.
Il y en a eu des beaux moments à Cuba, mais il y a eu des moments difficiles à Cuba.
Oui, en particulier en décembre, janvier 2012, premier.
Janvier 2012.
Ouais.
Alors, on va tout de suite aborder le sujet. Pourquoi difficile? Parce que Florence K, que beaucoup d'entre vous évidemment connaissent comme cette fille fantastique au sourire ravageur, à la voix lumineuse, belle femme dans tous les sens du terme. Florence, vous êtes passée par un épisode, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça,
oui,
dépressionnaire ou dépressif majeur.
Oui.
Et vous avez décidé de l'écrire.
Oui.
Vous avez décidé de nous en parler.
Oui.
Je vous avouerai que j'ai été très touchée et troublée par ce récit. Je savais que vous étiez, parce qu'à un moment donné, vous l'aviez dit,
oui.
Lors d'une entrevue, que vous étiez descendue très bas.
Oui.
Mais à ce point-là, j'étais vraiment... sur le cul, voilà. Je ne vois pas d'autres expressions à dire.
Non,
quoi.
Absolument, mais même moi, aujourd'hui...
Quelle
quand
descente
j'y
aux
repense,
enfers.
C'est une chance que je sois... que 5 ans après cet épisode-là, je suis ici aujourd'hui et je fonctionne très, 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 très bien.
On vous croit, là?
Oui, oui. Non, mais c'est vraiment vrai. Là.
Non,
il y a eu un cheminement énorme à plusieurs niveaux. Il y a eu entre autres l'écriture de mon livre qui parle de mon épisode dépressif majeur, de l'anxiété, de la psychose aussi vue de l'intérieur, de tout ce qui a été attaché à ça aussi, l'internement, les proches, comment on se sent quand on sort, etc. J'ai écrit le livre 3 ans après être sortie de l'hôpital. Donc, ça m'a pris du temps quand même avant d'être capable de le digérer assez, cet épisode dépressif majeur-là, pour être capable d'en parler avec recul, perspective, ouverture, humour aussi. Il y a des petites bribes d'humour dans le livre. Il y a de l'autodérision, parce qu'il en faut.
Oui.
Parce que ça sert à ça, l'humour aussi. C'est pour alléger les choses aussi.
Oui.
Ça m'a pris 3 ans avant de l'écrire. Je l'ai écrit à un moment où est-ce que je savais que je serais capable d'assumer le livre aussi. Parce que 6 mois après être sortie de l'hôpital, on m'aurait pitché dans les entrevues en train de parler du bouquet, mais j'aurais fait une rechute. Effectivement, ça m'a permis de faire l'expérience de la maladie mentale. Et aujourd'hui, parce que je l'ai vraiment explorée au niveau, comme je l'ai vécu, mais également par après, avec des études, etc., je pense que c'est un sujet qu'il faut continuer à mettre de l'avant dans notre société.
Oui.
Pour briser les tabous.
Et je vous disais tout à l'heure, juste avant qu'on entre en onde, c'est vraiment un livre essentiel. C'est un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains parce que la dépression, comme l'a très bien écrit et chanté Barbara, ça ne prévient pas, ça arrive.
Mm-hmm. Ça arrive, c'est sûr qu'il y a des éléments déclencheurs. On ne se réveille pas un matin, c'est comme avec une gastro, là, on a attrapé une dépression dans la rue. Ça arrive dans le sens qu'il y a des... C'est une maladie qui est biopsychosociale, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans le cerveau, ça a été étudié, ça l'est encore. On a des technologies qui nous permettent d'accéder à des choses qu'on ne savait pas auparavant. Il y a des prédispositions.
Oui.
On parle du rôle de la génétique également. On parle du rôle de la façon dont notre cerveau est constitué aussi avec nos expériences de vie. Il y a un aspect justement, donc le biopsycho, la façon dont on procède ce qu'on vit, la façon dont nos émotions parcourent jusqu'à naissent en nous et comment on les gère, etc. Notre rapport avec la réalité. Et l'aspect social également. Donc ça, c'est toute notre relation avec notre environnement depuis qu'on est né.
Permettez-moi que je vous lise. Nous sommes en page 158. Vous savez, c'est quand il y a ces petits italiques, là.
Mm-hmm.
Ouf. Je vous en supplie, quelqu'un, quelque part, aidez-moi. Sortez-moi de ce trou sans fond. Ce n'est pas moi.
Mm-hmm.
Je ne suis pas ce que je vis. Je ne me reconnais plus. Je ne suis plus grand-chose. Je meurs à petit feu. Qu'est-ce qui se passe? Neurotransmetteur, êtes-vous là? Récepteur de sérotonine, allez au boulot les mecs, arrêtez de paresser, on a besoin de vous là. C'est bon, puis je savais des passages, je pourrais vous en lire, j'en ai tellement coché à droite et à gauche. Et mais je me disais en vous lisant, vous n'avez pas eu peur de vous replonger autant dans la noirceur alors que vous étiez revenu à la lumière?
J'ai eu peur par moments, pas nécessairement de me replonger en l'écrivant, parce que au contraire, j'ai vraiment découvert une passion pour l'écriture et ça, de le revivre en l'écrivant, parce que plus j'écrivais, plus des souvenirs me remontaient à la surface, plus les choses réapparaissaient de façon claire, mais je n'étais plus dans cette réalité-là, j'étais plus là-dedans, donc ça m'a fait, c'est quand même une révélation. Mais j'ai eu peur au moment de sortir le livre, là, la première semaine d'entrevue, je me suis dit, dans quoi je me suis embarquée, parce que C'est quelque chose. Le premier article qui était paru, c'est d'un journaliste que j'aime énormément, Alain de Repentigny, mais avec l'entrevue qu'il m'a donnée, je veux dire, il a parlé du livre assez de fond en comble. Et c'était la première fois que je révélais dans les médias la maladie mentale. Mais aujourd'hui, je crois sincèrement que comme on est capable de parler d'un cancer qu'on vit, il faudrait pas avoir... On n'a jamais honte quand on parle de ce qu'on vit au niveau d'une maladie physique. Mais il y a toujours un voile de honte ou de culpabilité encore ou de peur lorsqu'on s'ouvre à propos de la maladie mentale. Or, il y a une chose qu'on semble oublier, c'est que la maladie mentale est également une maladie physique puisque notre cerveau est un organe physique qui fonctionne avec des éléments qu'on pourrait tâter, même bien qu'ils soient minuscules. Et le corps et l'esprit, le corps et la tête sont des entités qui sont reliées, qui fonctionnent l'une avec l'autre. C'est encore compliqué de faire comprendre ça à une grande partie de la population, mais c'est avec des ouvrages comme ça, des gens qui se prononcent. Lady Gaga récemment s'est ouverte sur sa dépression. Il y en a eu de plus en plus. Ces gens ont de moins en moins honte de parler de ça et d'anxiété. C'est important.
Alors, bon, la honte, la culpabilité, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière. Parce qu'au moment où cela vous tombe dessus, bon, pas du jour au lendemain, effectivement, mais tout va bien. D'ailleurs, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Et ça revient régulièrement dans le livre. J'ai tout pour être heureuse. Vous avez une petite fille que vous chérissez.
Oui.
Votre carrière va bien.
Oui.
Vous avez une famille que vous adorez.
Oui.
Bon, avec le chum, ça, avec le papa, ça marche un petit peu plus difficile.
Bien,
mais bon. Et là, donc, parce que je me disais, on ne sait pas comment on entre en dépression. Mmh. Et une fois qu'on est tombé si bas, on se pose la question, mais comment je vais en sortir?
Ouais, c'est comme, ça semble impossible. Il y a un mur qui se dresse devant nous.
Ouais.
C'est la maladie. C'est la maladie parce que plus on s'enfonce dans ces cycles de pensée-là, plus le cerveau, la partie physiologique du cerveau est affectée. Donc, je ne suis pas psychiatre, donc je ne peux pas vous dire exactement le fonctionnement au niveau des neurotransmetteurs, des capteurs, de sérotonine, etc. Je ne suis pas psychiatre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, la chimie du cerveau est affectée. Et à ce moment-là, on parle d'une maladie, d'une dépression clinique. Donc, ça nécessite un traitement, bien souvent médical, mais également thérapeutique. On le dit dans la maladie mentale, que ce soit la bipolarité, le trouble de la personnalité limite, la dépression, même la schizophrénie, la thérapie joue un rôle essentiel au même titre que la médication. Et moi, je suis pour justement le traitement à deux niveaux parce qu'on peut prendre des antidépresseurs mais ne jamais aller au fond du problème, comprendre la façon dont notre cerveau est organisé, comprendre la façon dont nos pensées surviennent. Et pour pouvoir les changer, il faut d'abord les comprendre.
Et je voudrais revenir sur un passage. Oh mon Dieu, j'espère que je l'ai noté. Malheureusement, je n'ai pas noté. Ah oui, je suis contente, la page, voilà. Ça m'a alors... Bouf. Vous êtes dans le bureau du psychiatre et on a Anne, votre grande amie, votre mentor, enfin celle qui prend beaucoup de décisions dans votre carrière, et votre maman sont là.
Ouais.
Et le psychiatre demande à votre maman, mais est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille? Et tout d'un coup, vous vous apercevez que oui.
Ben
et plusieurs en plus.
Ben oui.
Et là, vous êtes en colère contre elle. Et là, on vous imagine tellement, là, toute petite, les yeux tout cernés, toute maigre, parce que vous ne vous nourrissez plus, vous fumez comme un sapeur.
Comme un
pompier. Et là, donc, vous vous tournez vers elle, vous lui dites quoi, maman? Et tu t'étonnes que je sois internée? C'est quoi ce cirque? Enfin, bref, vous lui donnez de la marde,
ben
disons-le.
Oui.
Et là, la pauvre chouette, elle se met à pleurer.
Ben non, parce que ma famille, c'est très mal... C'est méconnu, la maladie mentale. Donc, ma mère, elle s'est fait poser la question, est-ce qu'il y a des antécédents? Donc, elle a dit oui, effectivement, il y a eu... Ben, son grand-père et ma mère s'est suicidé. Il y a eu des cousins, il y a eu toutes sortes de... Ma grand-mère, du côté paternel, a été tellement dépressive qu'elle a eu besoin de traitement électrochoc. Donc, il y a tout ça. Mais ma mère le savait, mais il n'y a jamais eu de prévention active dans la famille par rapport à ça, parce qu'on ne savait rien. Et il ne faut pas oublier, les années 80 dans lesquelles je suis née, ce n'est pas les années où est-ce que ton enfant, on le fait voir au psychoéducateur s'il y a quelque chose. Ce n'est pas les années où les façons... Ma génération, ce que je veux dire, c'est que ma génération aujourd'hui, et je regarde les gens d'autres générations, aujourd'hui sont beaucoup plus... apte à comprendre qu'il y a un psychological insight à faire avec soi-même d'une certaine façon et de la prévention également. Mais à l'époque, non, pas du tout. C'était premièrement, c'était tabou. Deuxièmement, c'était pas aussi aujourd'hui, je dirais. Les gens ont des psys, on en parle. Je vais ma psy, puis c'est normalisé. Et c'est bien que ce soit normalisé.
Oui. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il faut attendre la page 122. Et là, je vous jure, c'est comme si on m'avait enlevé une épine du pied. Ma famille insiste de de plus en plus pour m'emmener à l'urgence. Et là, j'ai écrit un gros « Enfin !» Parce qu'il y a eu tellement de pages où on est vous, Florence K. On est vous, on est dans votre souffrance. Physiquement, on la ressent, on l'a à tous les niveaux. Et là, on dit, mais attendez, faites quelqu'un autour. Non pas qu'ils ne sont pas autour de vous, d'ailleurs. Ils sont aux petits soins, ils s'aperçoivent, oui, etc.
Non, ils m'aident, ils me font à manger, ils s'occupent de moi, ils m'aiment. C'est pas ça le problème.
C'est pas ça le problème. Mais c'est qu'ils ne s'occupent pas du vrai problème.
Mais parce qu'ils ne savent pas.
Ils ne savent pas.
Et c'est ça, on ne sait pas. Et ils avaient peur. Parce qu'ils se disaient, mais si on l'emmène à l'urgence, mais la pauvre. Puis moi, je ne voulais pas y aller.
Ben oui, c'est ça.
Je ne voulais pas, mais je voulais rien savoir. Il y a ça aussi, il y a le déni.
Il y a le déni total.
Moi, la journée où à l'hôpital, j'ai compris que je souffrais d'une maladie mentale, que c'était correct, que c'était pas, ça voulait rien dire sur nous, notre entité personnelle, que c'était correct de souffrir d'une maladie mentale, que ça pouvait être traité et que la maladie n'était pas moi. C'est là où j'ai commencé à guérir.
Oui. Et ça commence par la gratitude.
Ben oui. Aussi, la gratitude a fait énormément partie de ça parce que tu te retrouves dans une aile psychiatrique parce que tu vois des cas beaucoup plus avancés, etc. Et tu te dis, bon, moi, je suis aux premières étapes, je peux encore faire quelque chose, mais je ne savais pas ce que j'avais encore. J'ai pensé à un moment donné que je pouvais être schizophrène ou bipolaire. Moi, c'était vraiment un épisode dépressif majeur.
Avec la psychose que vous avez vécu, c'était quand même de la première étape.
C'était la première étape. Mais après ça, moi, mon travail en sortant de l'hôpital, ça a été de vraiment en apprendre le plus possible sur la maladie. Donc, je suis retournée à l'université en psycho. J'ai lu, et je continue à le faire. Je crois que c'est très important de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain et du cerveau humain, parce qu'ils sont effectivement reliés. Parce que si on pense aux crimes dans la société, par exemple, combien de crimes sont d'origine, un niveau, par exemple, de la maladie mentale qui n'a pas été traitée, au niveau de la société aussi, les jeunes, les enfants qui sont laissés à eux-mêmes ou qui ne sont pas écoutés. J'ai travaillé à un moment donné avec Dr Julien pendant un an. Et ce qui fait, en fait, ce qu'il fait en offrant un centre, un lieu où est-ce que les enfants peuvent avoir accès à des soins médicaux, à des activités sociales, un suivi avec les parents, etc., ce qu'il fait, c'est de la prévention du crime, de la prévention de la maladie mentale. Et c'est énorme. Il faut commencer jeune. C'est super bien. Et quand je vois l'austérité qui fait en sorte qu'on coupe dans les programmes, justement, qui peuvent apporter à notre société du mieux et qui peuvent également faire en sorte que le crime soit en prévention, parce que la drogue, combien de cas de drogue, combien de gens qui sont toxicomanes souffrent de dépression ou d'anxiété? L'alcoolisme aussi. L'alcoolisme, c'est patché pour une dépression d'une certaine façon aussi. Bon, il y a l'addiction physique. C'est tellement important. Je pourrais en parler pendant des heures, Clotilde.
Florence. Mais écoutez, je voudrais vous dire, là, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous dire que votre livre est essentiel et que j'espère bien qu'il va tomber entre toutes les mains. Je veux dire, entre toutes les mains de ceux qui savent et surtout de ceux qui ne savent pas. Mais pas par ignorance crasse, simplement parce qu'effectivement, on n'est pas bien au courant. Et là, quand on sort de ce livre-là...
Moi, la première, je n'en savais rien, j'avais des préjugés, j'avais honte, j'osais vraiment.
Alors, le livre s'appelle « Buena Vida » de Florence K. Il y a 2 choses qu'il faut faire par rapport à Florence K. Il faut écouter sa musique, toute sa musique, parce que c'est une musique qui fait du bien. Et ce livre aussi, en quelque part, parce qu'il nous apprend ce qu'on ne sait pas.
Oui, et il y a une chose aussi que beaucoup de gens m'ont dit après avoir lu le livre, c'est que je me suis sentie moins seule. Parce que quelque chose, quand on vit la dépression, la solitude, on est seul au monde.
Est-ce que vous la reconnaissez maintenant? Est-ce que lorsque vous croisez des gens que vous pensez pouvoir être...
Je peux voir, je ne peux pas diagnostiquer.
Non, c'est clair.
Mais en même temps, j'ai une meilleure connaissance de la chose. Et je reconnais les symptômes avant-gardistes. Par exemple, si moi, je suis en état de déséquilibre dans le sens que je travaille trop ou que je ne m'entraîne pas assez, je suis capable de prendre du recul et de dire « Hey Flo, wow, red flag, fais attention à toi ».
Et vous ne fumez plus.
Ah non, ça c'est heureusement. Mais ça a été dur. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer. Ça a été dur. Oh my God.
C'est la voix de Florence K que vous entendiez, Florence K qui est venue gentiment en studio aujourd'hui pour nous parler de ce livre « Buena Vida ». Allez vous le chercher, écoutez ça mes amis, je vous en supplie. Puis juste après vous écoutez sa musique et alors du coup vous vous levez et vous dansez avec elle.
C'est ça, un petit boost après le
c'est ça.
un petit montant.
Merci Florence K. Merci beaucoup, bye bye. Lundi dernier, le 21 novembre, à l'émission Portrait de famille, animée par Marianne Paquette, elle recevait comme invitée Tammy Mailly Dominique, 17 ans, qui vit avec la fibrose kystique, et sa maman, Nadia Mailly. Marianne Paquette, au moment où on la retrouve dans cette émission, parle avec Michel Sylvestre de Make a Wish ou Fais un vœu, qui apporte espoir, force et joie en répondant aux vœux des enfants gravement malades. Alors explorons la mission de l'organisme Make a Wish, Fais un vœu Québec, avec Michel Sylvestre, présidente, directrice générale de la Fondation.
Elles font connaissance parce qu'elles ne se connaissaient pas. Vous vous êtes jamais rencontrées,
non.
Hein?
Non, on n'a pas parlé avec Michel, non.
Michel Sylvestre, présidente, directrice générale de la Fondation Make-A-Wish, Fais un vœu Québec. D'entrée de jeu, je vais le dire, je suis un peu jalouse. Quel beau boulot! Organiser des surprise parties comme ça, de belles surprises à des gens qui en ont envie, qui en ont de besoin aussi. C'est un peu ça, le mandat, les objectifs de la Fondation Fais un vœu Québec.
Tout à fait. Je me sens vraiment chanceuse, si on peut dire, d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça. Puis je pense que toute notre équipe aussi, on se sent fortunée de pouvoir le faire. Définitivement, c'est Tammy, je la connais pas personnellement, mais je la connais directement.
Parce qu'elle a marqué. Quand on appelle la Fondation Fais un vœu Québec, « Ah oui, Tammy, oui, oui, je sais. »
Ben, c'est parce qu'on vous voit, hein, on vous voit, on sait vos histoires, oui. On connaît, on a cette rétroaction-là. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'on est vraiment chanceux de pouvoir faire ce qu'on fait. Puis en même temps, ben, je pense que la Fondation comme telle, on réalise des vœux, puis on a un impact sur la vie des enfants, mais non seulement sur les enfants, mais sur la famille, puis sur toute la communauté qui l'entoure. Puis c'est ce qu'on voit avec Tammy, puis on voit avec d'autres enfants. Puis même, il y a des études qui ont été démontrées, qui ont démontré, par contre, l'impact d'un vœu. Puis ce que vous disiez...
Ah oui.
À 98 %, fait que vous êtes parmi ces 98 %-là que les parents disent que ça a changé la relation de la famille. Ça oui. fait en sorte que vous êtes devenu une famille normale pour au moins l'instant du voyage ou autre. Puis ça a un impact pour tout le restant de ta vie. Donc, je suis contente de l'entendre parce qu'on le voit dans nos statistiques.
Ça prouve le 98 %.
Oui, tout à fait. Puis il y en a même... au niveau de l'impact, je n'irai pas dans toutes les statistiques, là, mais il y en a une qui est très forte. Beaucoup de gens nous disent c'est des enfants qui sont devenus adultes. On a fait des statistiques ou des sondages. Et puis, à 71 %, les enfants nous disaient que ça a sauvé même leur vie.
Oh wow. Ah ouais.
C'est intense, c'est vraiment fort. Là.
Mais toi, Tammy, dès qu'on s'est parlé et que je t'ai dit ben, « je veux connaître tes intérêts parce que je vais construire l'émission de cette façon-là », tout de suite, c'est sorti. Make a wish. Je veux parler de ça.
Oui, en fait, Make a Wish, pour moi, c'était, j'ai voulu faire ça depuis longtemps. J'avais 11 ans, puis je le voyais partout. Je voyais que Make a Wish s'occupait des enfants malades qui avaient des vœux à réaliser. Puis je me souviens, j'avais même dit à ma mère, hey, on m'inscrit à Make a Wish, Puis on a fait ça très vite, la demande. Vite, on a écrit ça sur l'ordi, on était dans son lit. On s'était pas pensé quand on l'a écrit. Puis tout de suite, on a eu une réponse.
Ah oui,
t'es choisi. On a juste besoin de la lettre du médecin. Puis ils sont venus me rencontrer. Qu'est-ce que tu veux? Puis c'est là que ça s'est déterminé.
Tout de suite, Hawaï, c'était clair pour toi?
Non.
Non. Ordinateur.
En fait, non.
Non.
C'était pas mon premier choix.
Tu m'en parlais?
Oui, je m'explique. J'étais une grande fan de Justin Bieber, ce qu'on appelle une Belieber à l'époque. Et je voulais rencontrer Justin Bieber. Je voulais tellement le rencontrer que j'avais dit à mes cousins, moi, mon vœu, c'est je veux voir Justin Bieber. Puis étant donné que je connaissais... Le background, si je peux dire, de Justin Bieber. Moi, je voyais qu'il s'impliquait beaucoup avec la Fondation.
Uh-huh.
Puis j'étais comme, ah, c'est possible que je le rencontre enfin. Puis il m'avait dit, non, Tammy, Justin Bieber a trop de problèmes en ce moment pour que tu puisses le rencontrer.
Ah oui, c'est ça. Hein?
C'est dans sa petite période.
Exactement. Alors là, j'ai dit, bon...
Parce que normalement, ça aurait pu être facile de le rencontrer parce qu'on a un réseau international.
Oui, voilà.
Puis c'est là-dessus qu'on s'appuie parce que, par exemple, Tammy voulait voir Justin Bieber. Là, je me souviens, ça me rappelle.
Oui, exactement.
Puis on est dans 50 pays à travers le monde, donc on est partout. Il y a plusieurs enfants qui veulent voir Justin Bieber, mais on va avec un système qui nous permet de vous mettre en attente, si on peut dire.
Okay,
puis aussitôt qu'il y a une place, aussitôt que ça devient ton tour, bien là, elle peut profiter de ce vœu-là, puis on l'envoie où il est. Mm-hmm, donc, c'est pas ça. Nécessairement parce qu'il vient à Montréal que ça va être Tammy, mais si elle est avant, disons qu'il performe en Californie.
Il aurait pu être à Hawaï, quand même.
Exactement.
Moi, c'était ça. Au début, je me suis dit, hey, s'il est au Panama, pourquoi pas? Mais bon, c'était tout aussi bien.
On comprend que les vœux, ça peut aller partout. Un voyage, mm-hmm. la rencontre avec une personnalité connue, un ordinateur. Est-ce qu'on peut répondre à tous les vœux, Michel?
Je dirais que oui, c'est ça l'idée. Dans le fond, c'est vraiment le vœu de l'enfant. Donc, c'est important que ça soit pas le vœu du parent ou autre, qui est correct aussi, mais je veux dire, c'est vraiment le vœu de l'enfant. Pour nous, c'est important parce que c'est là que ça a un impact sur l'enfant et sur sa famille et sur toute la communauté qui l'entoure. Donc, pour nous, c'est vraiment important. C'est sûr qu'il peut y avoir je veux être un pompier, un policier, une princesse, un acteur. On en a qui voulaient être des acteurs, qui sont aujourd'hui un acteur. C'est quand même intéressant. Quand ils disent ça a changé leur vie, ouais, ça a changé dans tous les sens. Il y en a qui c'est je veux aller, comme toi, là, dans un pays exotique. Mm-hmm. Ça peut être Hawaï. Mais Hawaï, ce qui est intéressant, puis d'autres endroits aussi à travers le monde, c'est qu'on a des make-a-wish. Là.
Ah oui,
alors, on a un chapitre ou un bureau qui est là, sur place, ce qui rend la vie plus facile à nos familles aussi, parce que tu arrives dans un pays exotique, tu connais pas. Hawaï, c'est complètement différent. C'est une façon de fonctionner. Puis, ils les accueillent comme s'ils étaient des rois et des reines.
Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Quel est le profil des familles qui peuvent faire une demande chez vous?
C'est un enfant... Le premier critère, c'est vraiment l'enfant dont la santé est gravement menacée. Donc, une maladie progressive, dégénérative ou maligne. Ça cadre là-dedans, puis c'est nous qui regardons. Il ne faut pas qu'il y ait eu un vœu d'une autre fondation avant. Mm-hmm. Et il faut qu'il soit âgé entre 3 et 17 ans. C'est à peu près tout. Tous les enfants sont acceptés s'ils répondent à ces critères-là.
Et ça prenait une lettre du médecin pour
oui,
Tammy, du moins.
Oui, c'est que nous, on va converser, on va avoir une conversation avec le médecin et sa famille. Donc, on demande la permission, puis on s'assure que le médecin doit répondre, doit nous revenir. C'est vraiment le médecin traitant qui va nous dire si oui, elle est éligible au niveau de la maladie surtout.
OK. Bon, on comprend que les familles peuvent s'inscrire elles-mêmes.
Oui, définitivement. Il y a une façon, vous vous inscrivez en ligne. On a sur notre site. Vous pouvez téléphoner à la Fondation directement. Il y a des formulaires dans les hôpitaux et ailleurs là, qui peuvent être remplis par les travailleurs sociaux, les médecins et ainsi de suite.
Parce que parfois, vous faites référer également des
tout
familles
fait.
par les professionnels de la santé.
Ça peut être n'importe qui, en autant que la famille est consciente qu'elle veut, l'enfant veut, et que le médecin a approuvé. Mais ça, c'est dans le cheminement, dans le processus. Une fois que vous nous l'avez vous avez référé, nous, on va vous dire quoi faire après. Pour la suite des choses.
Mm-hmm. Il y a des vœux, je lisais sur votre site, des vœux que l'on ne peut pas réaliser, comme par exemple des soins médicaux, ouais. des médicaments. Vous avez mis des limites à ce niveau-là. Pourquoi, Michel?
Bien, parce que nous, on veut être vraiment dans... C'est vraiment le vœu de l'enfant. Donc, c'est pas on veut être à l'extérieur du côté médical.
Ah,
on veut sortir.
Oui.
On est un complément. Ouais. Donc, on a des restrictions, c'est-à-dire les restrictions c'est plus... dans l'exhaustion du vœu, par exemple, comme vous dites, un équipement médical, c'est pas nous. Il y a d'autres organisations qui font ça. Nous, c'est vraiment le vœu de l'enfant à l'extérieur de l'hôpital le plus possible. Il peut y avoir, je veux avoir une chaise adaptée pour jouer au soccer. Mais là, c'est différent. C'est à l'extérieur aussi. Mais c'est une chaise adaptée. Donc ça, oui, on peut le faire. Donc, il n'y a pas beaucoup qu'on peut pas faire. C'est vraiment, là, il faut que ça cadre dans notre mission. Puis, actuellement, la majorité des vœux sont exaucables.
Oui. Est-ce qu'il y a des vœux récurrents? Bon, Justin Bieber, on peut comprendre. Est-ce qu'il y a des vœux récurrents, des choses que vous entendez souvent?
Oui, il y a beaucoup de gens. Bien, Disney. Disney.
Ah, ben
puis,
oui.
On a beau dire Disney, oui, oh, encore Disney. Mais Disney, pour les enfants, c'est magique. Puis, notre partenariat avec Disney là-bas est extraordinaire. Je veux dire, ils sont sur un genre de resort qu'on appelle, mais pour eux. Donc, une famille de 7 est ensemble. Elle a toute sa... C'est comme une suite royale quasiment là, pour eux. Puis les gens sont extraordinaires. Disney connaît les enfants. À perfection, les enfants malades encore plus. On dirait que la relation est extraordinaire.
Ouais.
Fait que je comprends les enfants qui veulent y aller. Ils veulent rencontrer une princesse, un super-héros. Bien là, Disney est la place. Fait que beaucoup Disney, oui, mais on a beaucoup de différents. Je veux avoir un ordinateur, une chambre. Je veux aller à la plage. Ça peut être super simple. un peu, c'était un endroit exotique que Tammy voulait aller, mais des fois, c'est juste, je veux jouer dans le sable pour être avec ma famille.
Oui.
Fait que c'est...
En terminant, Michel, on doit se quitter là-dessus. Est-ce que la communauté, la société peut aider Make-A-Wish, un vœu Québec, à réaliser le rêve des enfants?
Vous pouvez... les gens peuvent s'impliquer de toutes les façons possibles par donner, premièrement, par s'impliquer en termes de bénévoles. On a des activités, des grosses activités de collecte de fonds, c'est-à-dire on a un 48 heures vélo qui a lieu au mois de septembre. On a maintenant un événement qui s'appelle Au fil de l'espoir, où tu descends en rappel un édifice au mois de mai. Je veux dire, on a plein de possibilités pour s'impliquer dans la Fondation.
Faisunvœuquebec.ca. On était avec Michel Sylvestre, qui est la PDG de cette Fondation. Merci beaucoup. Je vous envie encore, quand même.
Je vous l'envoie pas. Merci.
Alors, faisons un vœu, toutes et tous, pour que l'état de santé de ces enfants gravement malades s'améliore et surtout qu'ils puissent trouver l'espoir, la force et la joie dont ils ont tellement besoin. Voilà, c'est ainsi que se referme ce magazine Le National. Je voudrais remercier toutes les équipes de radio qui nous prêtent main forte, ainsi que Louise Vien et les techniciens Mathieu Tessier et Jean-Sébastien Laliberté pour leur aide. Sinon, il n'y aurait pas de National. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle fin de semaine.